Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous emmène en Afrique, dans un temps un petit peu ancien quand même, pour une histoire de Alden G. Stevens, le combat avec le lion. Une épaisse haie d'épines entourait le Maniata, ou village des Maasai, composé de simples paillotes. Tout autour des habitations, la terre restait nue et glabre, usée par les pas de nombreux pieds, les grattements des poules et le piétinement du bétail. À la tombée de la nuit, des bergers nus ramenaient les vaches à l'étable, ce kraal où elles étaient solidement protégées contre les lions errants et les autres bêtes de proie comme les léopards et les hyènes. Les vieilles gens, ainsi que les femmes et les enfants, vivaient sous l'abri du mur d'épines. Le village était dominé par une colline au sommet de laquelle se trouvaient quelques huttes où demeuraient les El Morani, ou jeunes guerriers. Du haut de leur observatoire, ils avaient une large vue sur la plaine et le village, et le jour et la nuit, ils montaient la garde contre l'ennemi avec tous les moyens donnés par la nature. Comme les gardiens sur les tours des vieux burgs, ils avaient toujours leurs armes à côté d'eux, et en cas d'alerte, ils saisissaient leurs durs boucliers en peau de buffle et leurs lourdes piques. Ces bergers nomades, au visage courageux et fier, leurs cheveux bouclés teints en rouge, étaient un peuple guerrier, ne craignant ni homme ni bête. Leur seule nourriture se composait d'un mélange de lait et de sang chaud. Leur seule richesse était le bétail. Toute leur force, leur savoir et leur adresse servaient à protéger les bovins. Les doigts maigres et rapides d'un guerrier frappaient en mesure un tambour en peau d'antilope. Le son retentissait dans la nuit, s'enflait et s'évanouissait comme de petites vagues. À ses côtés, les autres guerriers s'étaient étendus près d'un feu dont les flammes s'élevaient très haut. Le joueur de tambour se mit à chanter, répétant sans cesse « Aujourd'hui, j'ai vu la trace d'un lion !» Puis le son étant devenu presque imperceptible, l'homme reprenait « Aujourd'hui, j'ai vu la trace d'un lion !» Cette constante répétition rendit les guerriers attentifs. Ils regardèrent l'un après l'autre leurs collègues au tambour, qui, voyant leur attention éveillée, posa son instrument et dit de sa voix habituelle « J'ai vu, aujourd'hui, la trace d'un lion. » « Nous voyons tous les jours les traces d'un lion, » dit un des guerriers. « Il y a beaucoup de lions par ici. » Un homme qui portait sur la poitrine les larges cicatrices d'un très ancien combat demanda un peu impatienté. « Pourquoi répètes-tu toujours comme un enfant « J'ai vu aujourd'hui les traces d'un lion, j'ai vu aujourd'hui les traces d'un lion. Pourquoi ?»« Parce que les traces étaient particulièrement grandes. C'était celle du plus gros lion qui ait jamais traversé la savane. » En outre, il y avait aussi celle de sa compagne. Tous se taisaient, méditant la nouvelle. « La trace était grande comme quoi ?» demanda un de ceux qui n'avait rien dit jusque-là. « Aussi grande que mes deux mains écartées quand je les mets l'une à côté de l'autre. » Alors un vieux guerrier prit la parole. « Beaucoup de bêtes sont parties après les pluies, comme nous allons le faire avec nos femmes et le bétail. Les nombreux lions qui étaient là, quand il y avait du gibier, on fuit. Il y en a peu qui soient restés. Le lion et sa compagne, qui ont quitté le gros de la bande, sont des nouveaux venus dans la contrée. Peut-être viennent-ils d'une région où il n'y a pas grand-chose à manger. Alors ils auront faim et seront dangereux. Nos jeunes bergers devront monter une garde attentive et vigilante sur les troupeaux. Quant à nous, il faut que nous inspections le pays. Les lions ne doivent pas détruire notre bétail. » Il se tut et ses compagnons approuvèrent d'un signe de tête. En dépit de la vigilance des Maasai et de leurs petits bergers nus, depuis qu'on avait repéré le lion et sa compagne, il manquait chaque jour une vache ou un veau gras. Chaque jour au soleil levant, Un des jeunes garçons racontait tout effrayé qu'il avait vu un lion si grand, si sauvage, si terrible, qu'aucun cri ni aucune menace n'avait pu l'empêcher de commettre l'agression mortelle. « Nous étions assis sur la colline, » dit en tremblant un des petits bergers, « et notre bétail broutait paisiblement, quand soudain le lion géant surgit de l'herbe à côté d'une vache qui s'était un peu écartée du troupeau et bondit sur elle. La lionne apparut, se mouvant avec difficulté car elle va faire des petits. Et ils ont emporté ensemble la vache morte. Lorsque pendant 10 jours le même récit fut fait 10 fois, les guerriers Maasai résolurent de risquer une tentative pour se défendre. Un des meilleurs observateurs fut désigné pour aller inspecter dès le lendemain le lieu du meurtre et suivre les traces des lions qui n'osaient pas attaquer le jour. Et le soir, l'homme fit son rapport. Le lion et sa compagne choisissent d'abord un endroit favorable pour se livrer à leur rapine. Si une bête s'écarte un peu du troupeau, elle est abattue et son cadavre est amené près de la source, au pied de la colline à l'ouest, là où il y a de l'herbe. C'est à cet endroit qu'ils dépècent la vache ou le veau qu'ils ont tué. Tout autour, l'air est empesté par les os et la viande des animaux qu'ils nous ont pris. Un murmure de colère suivit ce récit. Le chef des guerriers déclara « Je vais chercher 20 hommes et demain nous irons cerner la place herbeuse et nous tuerons le gros lion avec nos lances. » D'un commun accord, les hommes furent désignés. Ils frottèrent leur corps couleur de miel avec de la graisse, astiquèrent leurs lances de 2 mètres de long et examinèrent leurs boucliers. La nuit, les tambours battirent sourdement, tandis que les guerriers chantaient le vieux chant de la chasse au lion. Le fauve était couché sur les restes de la proie de la veille. Tout était silencieux autour de lui. La nuit noire fit place à l'aube. Le ciel s'éclaira vers l'est et tout à coup, une rougeur flamboyante illumina l'horizon. Le lion se leva, bâilla, s'étira plein de force. L'instant d'après, il était bien réveillé. Il se mit en boule, dressa les oreilles et resta aux écoutes. Il avait perçu un faible bruit inconnu et peu rassurant. Pendant quelques secondes, le silence fut complet. Puis il y eut un son léger, comme si du fer frottait contre du fer. Le lion se glissa de quelques pas en avant. La fraîche brise du matin qui s'élevait lui apporta avec certitude l'odeur des hommes, ses mortels ennemis. Le lion se redressa en des mouvements si lents qu'on ne remarquait rien, et il regarda par-dessus les hautes herbes. À 20 mètres de lui, à peine, surgit un guerrier Maasai qui couvrit sa poitrine et le bas de son corps d'un bouclier ovale peint, et de sa main nerveuse saisit sa pique où les premiers rayons du soleil jetaient un éclat brillant. Puis un second homme sortit de l'herbe et vint se placer en silence à côté du premier. Le lion se cacha de nouveau dans l'herbe touffue, puis il se retourna et partit. L'herbe frémit à peine quand son corps couleur de sable s'y faufila. Il n'avait pas fait 3 mètres qu'un appel sourd retentit, bientôt suivi d'un deuxième. Soudain, de tous côtés, des rugissements éclatent. Le lion se relève et regarde par-dessus l'herbe qui le protège. Et ce sont encore des hommes qu'il voit devant lui. Un rapide coup d'œil à droite et à gauche, plus de doute, il est cerné. Lentement, on l'encercle et grâce à sa perspicacité, il a vite compris. Il est saisi d'une rage folle mêlée d'un peu de crainte. Il se dresse et se montre aux ennemis dans toute sa grandeur. Les hommes poussent un léger cri et un gémissement craintif s'échappe de leur poitrine. Pour ces habitants du désert, les lions n'étaient pas chose nouvelle. Pourtant, ils n'en avaient pas encore vu comme celui-ci. Un géant à crinière noire, dont le poitrail avec son poil tombant en mèche, laissait échapper des grognements si menaçants que les plus hardis de ces chasseurs expérimentés avaient peur. Les voilà tout prêts et l'attaque est imminente. Le lion voit un bras levé et un objet brillant, brandi par le bras, vole vers lui. Un tout petit écart le sauve. La pointe de la lourde pique, acérée comme un couteau, s'enfonce dans la peau et la chair de sa patte de devant, qu'il a levée et manque ainsi le cœur dans sa poitrine frémissante. Ce qui suivit fut trop rapide pour qu'un œil humain ait pu l'enregistrer. Des javelots sont lancés sur lui, mais déjà le voilà caché. Sa brûlante douleur le faisait tressaillir, comme un avertissement contre la mort. Son regard passionné ne quittait pas la haute stature du guerrier qui s'approchait lentement de lui. Soudain, un bond, porteur de mort, et voilà rompu le cercle de fer et d'homme. Le chasseur lâche sa pique et son bouclier. Un second javelot déchire le flanc du lion, qui met toute sa force à l'arracher des mains du chasseur. De sa patte de devant, restée intacte, il fait tomber le bouclier protecteur, et voilà l'homme qui se tord de douleur sur l'herbe, les entrailles perforées. Encore un bond gigantesque, et le lion est libre. Il s'enfuit. Les Maasai étaient loin, mais ils ne le perdaient pas de vue. La lionne attendait son compagnon, et elle se mit à courir avec lui, car il ne se reposa pas. Ils franchirent une crête rocheuse, puis se retrouvèrent dans la plaine. Ils ne s'arrêtèrent que vers midi, arrivés à un groupe de grands arbres qui poussaient sur le bord d'un petit ruisseau à l'eau brune. Là, ils tombèrent de sommeil, épuisés. Mais une violente douleur réveilla le lion. Il grognait, cherchant à prendre avec ses dents la pique dont le manche court dépassait de son flanc qui palpitait. La voix sauvage réveilla la lionne. Elle observa quelques instants son seigneur et maître, puis s'approcha de lui avec précaution. Elle eut d'abord peur du javelot, puis elle s'enhardit. Elle saisit le lourd morceau de fer dans ses mâchoires vigoureuses, se coucha sur le dos et tira tant qu'elle put. Le dard, long d'un mètre, finit par sortir de la plaie. Ensuite, elle lécha plus d'une heure la déchirure béante, tandis que le lion restait immobile sur le gazon. Les deux profondes blessures le faisaient beaucoup souffrir, mais elles furent rapidement guéries. Pendant 10 jours, les deux animaux ne quittèrent leur refuge que pour aller boire. Et ils durent se contenter de quelques lapins, de dindons, de délicates gazelles qui passaient tout près d'eux. Le 10e jour, les plaies étaient presque fermées, et le lion put reprendre ses pérégrinations. Ils se dirigèrent tous deux vers le nord-est, laissant loin derrière eux les grands arbres et les abreuvoirs. Dure loi de la nature, n'est-ce pas? Les lions doivent manger et les Maasai doivent protéger leur bétail. À propos des Maasai, il y a un magnifique livre de Joseph Kessel, Le Lion, que je suggère au plus grand de lire. Une magnifique histoire. Merci Roland à la technique et à vous, je dis à bientôt. Au revoir. Thank you.